بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, nous avons lu ce soir le 9e sifara. Et dans le 9e sifara, essentiellement, il est question de l'histoire de Hazrat Moussa alayhi salam avec les Banu Israël. Et nous savons tous que les Banu Israël, donc c'était un peuple qui suivait donc Moussa alayhi salam, mais c'était un peuple qui a donné beaucoup, beaucoup de difficultés à Hazrat Moussa alayhi salam. Et c'était un peuple qui était très souvent ingrat et qui ne reconnaissait pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, avant de venir à l'histoire des Banu Israël, lorsque les Banu Israël étaient encore sous l'autorité de Pharaon, de Pharaon, alors Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Pharaon, alayhi la'natullah, en envoyant certains signes. Wa laqad akhadna ala Pharaona bis-sinin. Il y a eu as-sinin wa naqsun min ath-thamarat. Allah ta'ala les a éprouvés par, pas par la pauvreté, mais par un manque, par la famine, hein, et une période où les récoltes étaient presque stériles. Dans certaines sources, il est commenté le dattier ne donnait plus qu'un seul fruit. C'est-à-dire dans un dattier, il n'y avait plus qu'une date qui poussait pendant les périodes d'été. Vraiment, il y avait une famine, un manque de nourriture, un manquement dans les récoltes. Mais malgré ces signes qu'Allah Ta'ala avait envoyés à Pharaon, hein, ces gens-là n'avaient pas compris à travers ça la grandeur d'Allah, que c'était un message d'Allah pour eux, et ils sont restés fermes dans leur ingratitude. Et ils ont même dit à Hazrat Moussa alayhi salam, Mahma ta'tina bihi min ayati litasharana biha. Même si tu, en ce sens, même si tu apportes le quantité de signes, quels que soient les miracles que tu vas accomplir, quels que soient les signes avec lesquels, hein, tu vas t'adresser à nous ou que ton Dieu t'envoie, alors malgré ça, nous te croirons jamais, ô Moussa. Et lorsqu'il est arrivé quelque chose de mauvais, quand il est arrivé quelque chose de bien, il disait que ça c'est nous, c'est notre effort, c'est grâce à nous que cette chose est arrivée. Et lorsqu'il leur arrivait un malheur, il disait ben ça c'est le malheur causé par Moussa alayhi salam et par les gens qui le suivent. Donc c'était des gens vraiment oppresseurs. Et Allah Ta'ala va envoyer pour Pharaon une série de signes, hein, afin qu'il retourne vers le droit chemin. Mais à chaque fois qu'un de ces signes arrivait, ces gens-là restaient de plus en plus fermes dans leur ingratitude, jusqu'à ce qu'à la fin, Allah Ta'ala a terrassé Pharaon et toute son armée. Alors, le premier signe qu'Allah Ta'ala a envoyé à Pharaon, c'était At-Tufan, c'était la tempête. Et lorsqu'il y a eu cette tempête qui avait noyé toute leur récolte, là, il s'était adressé à Moussa, il s'est dit, ô Moïse, invoque ton Dieu, hein, et que si vraiment tu arrives à éloigner cette tempête, hein, qui était en train de ravager leur récolte, alors on va te suivre. Et on va libérer les fils d'Israël, on va libérer les Banu Israël. Ils ont fait la promesse. Et Moussa alayhi salam a demandé droit à Allah. Effectivement, Allah Ta'ala a épargné ces gens. Et donc, la tempête s'est éloignée. Mais malgré ça, regardez comment c'était des menteurs. Hein, ils n'ont pas accepté la religion de Moussa alayhi salam, le tawhid, l'unicité d'Allah. Et ils n'ont pas non plus libéré les Banu Israël. Maintenant, Allah Ta'ala va les éprouver par un deuxième signe. Allah Ta'ala va envoyer Farsana alayhim al-Tufan, c'était al-Tufan, wal-Jarad. Al-Jarad, c'est quoi? C'est les sauterelles. Et dans certaines sources, c'est dit que les sauterelles, c'est une des populations, une des créatures les plus nombreuses qu'Allah Ta'ala peut envoyer. On voit parfois des reportages en Afrique, au Soudan, lorsqu'il y a des invasions de sauterelles, c'est pas par un million qu'on compte, c'est peut-être par un milliard. Ça peut vous ravager un terrain grand comme Saint-Denis, Saint-Pierre, ou je ne sais, peut-être même la moitié de la Réunion. Personne ne peut les arrêter. Pas de pompiers, pas d'armée, rien. Ça c'est, alors que c'est des créatures avec votre chaussure, vous les écrasez. Vous les écrasez plus facilement qu'un cancrelat. Parce que les sauterelles, ça vole, mais ça vole pas bien haut. Quand ils volent, ils tombent. Parfois ils volent, on va pas faire un cours de biologie, mais à force de vue, parfois ils tombent devant vous comme ça. C'est tellement facile de tuer une sauterelle. Mais qu'Allah il envoie ces créatures, ça vient par milliards et personne ne peut rien faire. Vous pouvez mettre des pesticides, vous pouvez mettre des serres, ça casse tout, ça brise tout. Donc Allah Ta'ala a envoyé ce signe-là, Al-Jarad, a envoyé les sauterelles pour éprouver les fils, pour éprouver Pharaon. Alors on retrouve les commentaires. Et là, lorsque, dans certaines sources, il est dit que les sauterelles, fa'akala shajar, hein, les sauterelles, ils ont dévoré les arbres, ils ont dévoré tout, juste, même que les sauterelles, ils dévoraient les clous, masamirul abwab, les clous de leur porte qui étaient en fer, hatta taqa'u dawrahum wa masakinhum, et leur porte tombait. Vraiment, les sauterelles ont tout ravagé. Lorsqu'ils ont vu les désastres causés par les autres, ils ont dit, oh Moussa, là encore, demande à ton Dieu de nous aider. Si vraiment ton Dieu nous aide, nous aurons iman en toi et nous libérerons les fils d'Israël, les Banu Israël. Et Moussa a fait doua et Allah Ta'ala a éloigné cette armée de sauterelles. Et malgré ça, ils ont dit que nous ne croyons pas à ton Dieu. Maintenant, Allah Ta'ala va les éprouver par autre chose, maintenant c'est Al-Qummal. Al-Qummal, si on regarde la traduction en français, Al-Qummal, on peut traduire par des poux, ou alors soit des poux, soit des puces. Il est dit dans certains commentaires qu'il y avait tellement de poux, une invasion de poux, alors de puces, hein, dans les fils de Pharaon, que dans les ghalaba ala al-buyut wal at'ima, de leur maison, de la nourriture, et ils ne pouvaient même plus dormir, tellement ces animaux venaient les piquer, hein, ça suce le sang, ça. Ils pouvaient même plus vivre, même plus dormir le soir. Là aussi, même discours, oh Moussa, demande à ton Dieu de nous aider, et nous croirons en toi, nous libérerons les Banu Israël. Et Moussa a fait doua, et malgré ça, ces gens-là n'ont pas accepté, hein, ils n'ont pas respecté leur engagement, leur promesse. Maintenant, Allah Ta'ala va envoyer quoi? Wa ad-dhafadi'a, c'est quoi? Les crapauds. Il y avait une invasion de crapauds. Elle dit tellement il y avait des crapauds dans leur ville. Elle dit même quelqu'un, il ouvrait une marmite, il retirait un vêtement, il y avait des crapauds. Ils étaient envahis par les crapauds dans les maisons, dans les champs, partout. Et là, même discours. Et ils n'ont pas encore tenu leur engagement. Et le dernier signe qu'Allah a envoyé, c'était quoi? Adam. Adam, c'était le sang. Leur rivière était remplie, c'était plus de l'eau, c'était du sang. Lorsqu'ils tiraient de l'eau dans leur puits, ce n'était plus de l'eau qui sortait, mais là également, c'était du sang. Et ils ont demandé Moussa le même doigt. Et Moussa, comment il était patient, il a fait doigt, mais malgré ça, ils n'ont pas eu iman sur lui. Maintenant, on comprend qu'Allah Ta'ala a décidé de noyer Pharaon avec son peuple lorsque la mer s'est ouverte. Et là, Pharaon a osé dire, que maintenant je crois en Allah. Et Allah Ta'ala dit, Al-an, qad asayta qabl, maintenant. Alors qu'avant tu ne voulais pas, tu as désobéi. Donc Allah Ta'ala a terrassé l'armée de Pharaon, Pharaon avec son armée. Taïb. Autre verset qu'on a vu aujourd'hui, ça c'est un verset, Inch'Allah, qu'on va développer ce dimanche, après Zohar en ville. Wa rahmati wa si'at kulla shay. Dans ce verset, Allah Ta'ala dit tout d'abord, inna azabi, qala azabi usibuhu min asha. Allah Ta'ala fait comprendre avec son verset, ce verset, que sa punition, son azab, hein, par ce azab, Allah il atteint qui il veut, quand il le décide. Mais sa rahma, sa clémence, sa bénédiction, Allah Ta'ala il l'envoie pour tout le monde. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que Allah Ta'ala a 100 rahma. Inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahma. Allah Ta'ala a 100 bénédictions. فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحَمُ بِهَا الْخَلْقُ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوُحُوشِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا. Il dit qu'une des bénédictions, une des rahmas d'Allah, cela couvre l'ensemble des créatures de ce monde. Et par cette rahma, hein, les animaux, ils ont raham pour leurs petits, et entre les créatures, ils ont parfois pitié entre eux. Et les 99 rahmas qui restent, Allah Ta'ala les a réservés spécialement pour les musulmans le jour de Qiyamah. C'est pour ça que dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on a deux mots qui ont la même racine, qui ont le ra, le hé, le mim ar-Rahma. Donc Rahman et Rahim. Il y a une clémence d'Allah qui est pour l'humanité tout entière, ceux qui croient en Allah ou ceux qui ne croient pas. Même celui qui ne croit pas en Allah, Allah Ta'ala lui donne son rosi, lui donne son rizq. Même Pharaon, il avait son rizq. Même Shaytan, il a son rizq. Shaitan est une makhlouq, une créature, nous aussi, il a son risque. Et puis, il y a une rahma, que ça, c'est spécifique pour les ahlul iman, pour les musulmans, le jour du Qiyamah. Et Inch'Allah, demain, après-demain, après Zohar, on aura un programme en ville par plusieurs intervenants qui a pour titre l'humanisme en islam. On va voir que contrairement à ce que l'Occident peut dire sur l'islam, sur leur vision de l'intégrisme religieux, comme ils peuvent dire, nous allons voir, Inch'Allah, comment ce dîn a emmené la paix et les meilleures des valeurs humaines dans la Oumma, sur ce dunya, plus que n'importe quelle civilisation, n'importe quelle culture, ou alors à notre époque, n'importe quel parti politique n'a pu le faire. Et dernier verset, donc, rapidement, Alladina yattabi, voilà, hein, ça c'est un verset qui rejoint un peu ce qu'on avait dit hier ou alors avant-hier, concernant le fait que les Yahoud et les Nasara, dans leur livre, il y a des versets qui annoncent la venue du dernier des prophètes. Et jusqu'à maintenant, Maintenant, les responsables, les autorités religieuses, ils le savent intérieurement, mais à leur manière, ils ont su soit détourner, soit masquer, mais que les gens ne comprennent pas. Alors, le Coran, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ, que donc, hein, les signes et la description de ce prophète arabe qui ne savait ni lire ni écrire, donc il était illettré, mais illettré, c'est pas au sens péjoratif. C'est, on ne dit pas que le prophète était illettré, qu'il était, na'ouz billah, il n'était pas intelligent ou bête. Non. C'est que Allah Ta'ala a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sache ni lire ni écrire et qu'il ne le saura jamais. Pourquoi? Afin que personne ne puisse penser que ce Coran, c'est lui qui l'a écrit. Ça, c'était une hikmat d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a la description de ce prophète arabe dans le Taurat et dans le Injil. Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, une fois, il a rendu visite à une personne à Madina Munawara, donc quelqu'un qui suivait la religion de la Taurat, et cet homme était en train de lire le Taurat auprès de son fils qui était mourant. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis-moi la vérité, en ce sens, dans ton Taurat, dans la Torah, est-ce qu'il n'y a pas des versets qui parlent, hein, fi kitabi kaza wa sifati wa makhraji, des versets qui parlent, qui décrivent, qui me décrivent et qui expliquent quand est-ce que je viendrai? Alors, cette personne, faqala bi ra'si hakada, il a fait non. Il n'a même pas répondu, il a fait non. Et tout le monde a compris qu'il ne disait pas la vérité. Alors, le fils qui était mourant, il a dit, wallazi anzala at-taurata inna lanajida fi kitabina sifatika, sifataka wa makhraja. Il a dit que je jure, cet enfant dit que je jure par celui qui a fait descendre la Taurat, que dans la Taurat, il y a, ô Muhammad, il y a ta description et il y a les textes concernant ta venue. Et moi, j'atteste, wa inni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Et j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah et que toi, Muhammad, tu es le prophète d'Allah. Alors, le prophète sallam a dit que, aqimul, on va dire directement en français, que le prophète, ce jeune homme est décédé, le prophète sallam a ordonné qu'il soit enterré comme à la manière d'Islam, de le kafan, wa salatu alayhi, et de faire la salat sur cette personne, qui donc a lu le shahada quelques instants avant de quitter ce dunya. Il n'a pas fait une salat ou autre chose. Il a dit au prophète que j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah, que toi tu es le prophète d'Allah. Et il a démenti de la sorte ce que son père est en train de dire, en train de renier l'existence de textes qui annoncent clairement la venue du prophète sallam dans le Taurat. Il en est de même. Il y a une autre histoire qui est beaucoup trop longue. On va pas trop dépasser le temps. C'était lorsque une délégation des sahabas était partie voir Harqul. Harqul, c'est, pour dire, Hercule, donc en France, c'était donc un dirigeant romain. Et donc, l'histoire est un peu longue, ils sont arrivés, ils ont essayé de rencontrer Hercule. Donc, Hercule n'a pas voulu les rencontrer directement, il a envoyé un intermédiaire. On dit l'histoire en deux secondes, hein, rapidement. Il a envoyé un ministre. Alors, les musulmans, ils disent que nous, on ne parle pas au ministre. On est venu rencontrer le roi et on parlera qu'au roi et qu'à lui. Alors, en même temps, ils ont parlé un peu avec ce ministre, ils ont expliqué quel est le but de leur venue. Il a dit que ce ministre a dit que vous, de toute façon, c'est pas vous les compagnons du prophète, du dernier des prophètes. Il a dit parce que lastum biha, bal hum qawmun yasumuna bin nahar wa yaqumuna bil layl. Il a dit que les gens, les compagnons de ce prophète qui va venir à la fin des temps, ce sont des gens qui jeûnent les matinées et qui prient la nuit. Il a demandé, mais kayfa sawmukum, comment est-ce que vous jeûnez? Fa akhbarnahu. Et on l'a expliqué que nous aussi nous jeûnons le matin à telle manière et le soir nous faisons la salat ta'adil qiyamul layl. Lorsque ce ministre a entendu, famuli awajhu sawada, son visage est obscurci. Il a compris que certainement c'était ces gens-là qui sont annoncés dans le Injil de la Bible. Et là il était désemparé. Il a dit maintenant levez-vous, allez allons, on va voir le roi. Et là également, le roi, il a posé cette question. Le récit est long, hein, entre le roi et ce sahaba. À la fin, pour arriver, il dit, kayfa salatukum wa sawmukum, comment est-ce que vous priez? Et comment est-ce que vous jeûnez? Et là, il dit que, fa akhbarnahu, nous l'avons expliqué. Là, il a dit, venez, je vais vous amener vers un endroit. Là, il décrit un endroit, c'était magnifique, avec des portes dorées, etc. Il a dit qu'il a ouvert un coffre, et il a sorti un parchemin. Et sur ce parchemin, il y avait le dessin d'un être humain. Bon, il y a les descriptions physiques qui sont un peu longues à décrire. Là, on a dit, parce qu'il y a 1, 2, 3, il y a au moins 10 prophètes qu'ils ont montrés en portrait. Il a dit, le premier des prophètes, il dit, vous savez, c'est qui? Il a dit, on dit, ça, c'est le premier homme, Adam a.s. Et puis, il a tiré dans un autre coffre, un autre parchemin, il décrit cet homme, donc, juste pour Ibrahim a.s. Il a dit, quelqu'un qui avait donc le front bien large, Abiyadul lihya, la barbe blanchie, un visage beau et rayonnant comme si qu'il souriait. Il dit, qui c'est cette personne? Il dit, ça c'est Ibrahim alayhi salam. Et puis, il a montré un troisième parchemin. Et ils ont vu, dit, ben ça c'est notre, il dit, vous connaissez cet homme? Et ils se sont mis à pleurer, dit, oui, wallahi, ça c'est notre prophète. Ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient étonnés, c'est la première fois qu'ils voient une personne détenir le portrait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le roi, il était choqué, il a dit que j'allais vous montrer d'autres prophètes encore. Mais je voulais absolument que vous voyiez cet homme pour voir si vraiment vous suivez cet homme. Et donc, il s'est rendu compte que vraiment les sahaba, ils suivaient, ils ont reconnu immédiatement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il les a montré la photo, un parchemin sur lequel était dessiné le portrait de Harun alayhi wa sallam, de Lout alayhi wa sallam, de Ishaq alayhi wa sallam, de Yaqub, de Ismaïl, de Yusuf, de Daoud, de Suleyman et de Isa. Lorsqu'ils l'ont montré le portrait de Hazrat Moussa alayhi wa sallam, j'ai pas le texte là sous les yeux, je ne le retrouve pas, mais il explique comment c'était quelqu'un qui avait un nez très en colère. Il dit, quand on regardait le portrait de Issa, de Moussa alayhi salam, c'était comme si quelqu'un qui, naturellement, était très en colère. Voyez? Et donc, alors, lorsque ces sahabas, ils ont vu tout cela, ils ont demandé à ce roi, ben, comment est-ce que tu t'es procuré ces parchemins? Il dit, annana na'lamu annaha, c'est-à-dire, on sait que les prophètes, ils ne faisaient pas de portraits. Ça n'a jamais existé. Comment est-ce que tu peux avoir ça? Hein? Alors, il a expliqué que lorsque Adam a.s. avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire voir les anbiya, les prophètes parmi sa descendance, et Allah ta'ala lui a révélé donc ces choses-là. Et cela faisait partie des trésors de Adam a.s. qu'il avait caché à l'endroit où se lève le soleil. Alors, lorsque Dhulqarnayn, après le départ d'Isa alayhi salam, longtemps après, Dhulqarnayn a déterré ce trésor et il l'a confié à Daniel. Et nous, on a hérité ça de Daniel. Alors, lorsque les sahaba, ils sont retournés auprès d'Abu Bakr al-Siddiq, ils ont dit que, oh, Abu Bakr, ils ont fait le récit, ils ont raconté qu'est-ce qu'ils ont vu. « Akhbarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, annahum wal yajiduna na'ata Muhammad indahum » Donc, à travers ce verset, cela renforce notre iman chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous comprenons encore plus que ce dîn, c'est l'aboutissement des deux autres religions monothéistes qu'Allah Ta'ala a envoyé à d'autres époques et qu'à l'origine, ces deux religions invitées vers l'adoration d'Allah, l'unique, avec des ibadats qu'on retrouve dans notre dîn, mais sous des formes peut-être différentes. Et après, il y a eu les changements, il y a eu la main des hommes qui a changé les textes d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais des textes qui n'avaient pas eu la garantie de protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à l'origine, c'était des religions de Ahlul Iman, de monothéistes. Et ceux qui ont suivi ces prophètes, que ce soit Moussa ou Isa alayhi salam, à leur époque, ce sont des gens qui accéderont au paradis, tout comme nous, en tant que disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous accéderons, inshallah, au paradis. Et jusqu'à maintenant, les commentaires du Coran nous disent que malgré les changements qu'il y a eu, malgré les falsifications qu'il y a eu dans le Taurat et le Injil, il y a des versets qui n'ont jamais pu falsifier, et ça c'est un miracle d'Allah, ce sont exactement les versets qui expliquent la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets se trouvent toujours à ça, malgré leurs mauvaises intentions, ils n'ont pas pu changer. Maintenant, dans leur interprétation, ils vont dire autre chose, mais ces versets existent toujours dans le Torah et le Injil. Qu'Allah donne la compréhension de ces livres, qu'Allah donne la compréhension de ce Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dans notre cœur, mes chers frères, nous avons ce yaqin que ce que le prophète sallam nous a légué, que taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati. Quand notre prophète nous a dit que je vous ai laissé deux choses, si vous restez attachés à ces deux choses, jamais vous ne serez égarés. C'est le Coran, le livre d'Allah et ma sunna. Qu'Allah Ta'ala renforce l'amour pour le Coran de notre cœur et l'amour pour la sunna de notre cœur, que jamais de la vie nous ne serons prêts à délaisser le Coran ou la sunna pour autre chose. Wa ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Et nous rappelons que demain, dimanche, il y a programme d'âme, pas demain, après-demain, dimanche, il y a programme d'âme à Saint-Clotilde à partir de 10h30 jusqu'à 11h30. Et après le Salat al-Dhuhr, il y a donc ce programme sur l'humanisme et tout ce qu'on pourrait répondre aux détracteurs de l'islam à notre époque. Donc un programme pour hommes et dames également après Namaz al-Dhuhr à 1h15 à la grande mosquée de Saint-Denis. Falyuballigh ash-shahid al-ghaib. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil izzati amma yasifun.